on est dans le contexte un peu des persécutions avec les apologètes. Et bien, je vais vous passer la fameuse lettre de Trajan, destinée à Trajan, et la réponse que Trajan a faite. Je vais vous lire la question que posait Pline, qui était gouverneur d'une province qu'on dirait aujourd'hui de Turquie, puisque l'Asie mineure, la Bithynie faisait partie de l'Asie mineure. Sauf qu'à l'époque, c'était évidemment rempli de Grecs. Hein. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y avait d'abord aucun Turc, puisque les Turcs n'étaient pas encore arrivés. Et il y avait des populations locales, et puis énormément de Grecs qui étaient établis. D'ailleurs, ils sont restés jusque dans les années 20. Hein. Je crois que la Grèce a eu l'idée un peu sotte de faire la guerre à Atatürk juste après les traités de paix. Ils se sont fait écraser. Et du coup, les Turcs en ont profité pour virer tout ce qui restait de Grecs. Il y en a des millions. Hein.
Smyrne.
Toute l'implantation grecque a disparu à ce moment-là. Donc Pline était un gouverneur. Et il est confronté à la présence de chrétiens, nombreux en Asie mineure. C'est une des premières régions à être évangélisée avec la Syrie. Et il s'adresse donc à l'empereur pour savoir ce qu'il doit faire. Et on va lire la lettre. Elle n'est pas très longue. « Maître, c'est une règle pour moi de te soumettre tous les points sur lesquels j'ai des doutes. Qui pourrait mieux me diriger quand j'hésite ou m'instruire quand j'ignore ? Je n'ai jamais participé à des informations contre les chrétiens. Dans les informations sont des procédures. Je ne sais donc à quel fait et dans quelle mesure s'applique d'ordinaire la peine ou les poursuites. Je me demande, non sans perplexité, s'il y a des différences à observer selon les âges, si la tendre enfance est sur le même pied que l'adulte, si l'on pardonne au repentir, ou si qui a été tout à fait chrétien ne gagne rien à se dédire. Si l'on punit le seul nom de chrétien en l'absence de crime ou les crimes qu'implique le nom. En attendant, voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens. Je leur ai demandé à eux-mêmes s'ils étaient chrétiens. À ceux qui avouaient, je les demandais une seconde et une troisième fois en les menaçant du supplice. Ceux qui persévéraient, je les ai fait exécuter. Quoi que signifiât leur aveu, j'étais sûr qu'il fallait punir du moins cet entêtement et cette obstination inflexible. D'autres possédés de la même folie, je les ai, en tant que citoyen romain, notés pour être envoyés à Rome. Bientôt, comme il arrive en pareil cas, l'accusation s'étendant avec le progrès de l'enquête, plusieurs cas différents se sont présentés. On a affiché un libelle sans signature contenant un grand nombre de noms. Ceux qui niaient être chrétiens ou l'avoir été. S'ils invoquaient les dieux selon la formule que je leur dictais, et sacrifiaient par l'encens et le vin devant ton image que j'avais fait apporter à cette intention avec les statues des divinités, si en outre ils blasphémaient le Christ, toute chose qu'il est, dit-on, impossible de tenir de ceux qui sont vraiment chrétiens, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher. D'autres, dont le nom avait été donné par un dénonciateur, dirent qu'ils étaient chrétiens, puis prétendirent qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils l'avaient été à la vérité, mais avaient cessé de l'être, les uns depuis 3 ans, d'autres depuis plus d'années encore, quelques-uns même depuis 20 ans. Tous ceux-là aussi ont adoré ton image, ainsi que les statues des dieux, et ont blasphémé le Christ. D'ailleurs, ils affirmaient que toute leur faute ou leur erreur s'était bornée à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil, de chanter entre eux alternativement un hymne au Christ comme à un dieu, de s'engager par serment non à perpétrer quelque crime, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée, à ne pas nier un dépôt réclamé en justice. Ces rites accomplis, ils avaient l'habitude de se séparer et de se réunir encore pour prendre leur nourriture, qui, quoi qu'on dise, est ordinaire et innocente. Même cette pratique, ils y avaient renoncé après mon édit par lequel j'avais, selon tes instructions, interdit les hétéries. Non, c'est des repas sacrés. J'ai cru d'autant plus nécessaire de soutirer la vérité à deux esclaves que l'on disait diaconesses, quitte à les soumettre à la torture. Je n'ai trouvé qu'une superstition déraisonnable et sans mesure. Aussi ai-je suspendu l'information pour recourir à ton avis. L'affaire m'a paru mériter que je prenne ton avis, surtout à cause du nombre des accusés. Il y a une foule de personnes de tout âge, de toutes conditions, des deux sexes aussi, qui sont ou seront mises en péril. Ce n'est pas seulement à travers les villes, mais aussi à travers les villages et les campagnes que s'est répandue la contagion de cette superstition. Je crois pourtant qu'il est possible de l'enrayer et de la guérir. Il n'est certes pas douteux que les temples, qui étaient désormais presque abandonnés, commencent à être fréquentés, que les cérémonies rituelles longtemps interrompues sont reprises, que partout on vend la chair des victimes qui jusqu'à présent ne trouvaient plus que de très rares acheteurs. D'où il est aisé de penser quelle foule d'hommes pourrait être guérie si l'on accueillait le repentir. Donc voilà les questions que se pose Trajan, Pline. Donc ce qui veut dire aussi que beaucoup de gens, donc vous voyez que cette région de l'Asie mineure était en passe d'être complètement christianisée, mais qu'il a suffi d'agiter un peu la persécution pour que les gens reviennent à leurs anciennes, abandonnent très rapidement le christianisme. Alors voilà la réponse de Trajan. Mon cher Pline, tu as suivi la conduite que tu devais dans l'examen des causes de ceux qui t'avaient été dénoncés comme chrétiens. Car on ne peut instituer une règle générale qui est, pour ainsi dire, une forme fixe. Il n'y a pas à les poursuivre d'office. Alors, vous voyez aussi, ce que disait Pline, c'est qu'on en trouve non seulement dans les villes, mais partout. Donc, si on poursuit d'office les chrétiens, on poursuit les deux tiers ou les trois quarts de la population de la province. S'ils sont dénoncés et convaincus, il faut les condamner, mais avec la restriction suivante. Celui qui aura nié être chrétien et en aura par les faits mêmes donné la preuve manifeste, je veux dire en sacrifiant à nos dieux, même s'il a été suspect en ce qui concerne le passé, obtiendra le pardon comme prix de son repentir. Quant aux dénonciations anonymes, elles ne doivent jouer aucun rôle dans quelque accusation que ce soit. C'est un procédé d'un détestable exemple qui n'est plus de notre temps.
Hashtag balance ton chrétien.
Alors, pourtant, mais pourtant, ça a bien marché parce que vous avez vu que, avec la Révolution française, avec les révolutions russes, etc., on s'est pas gêné pour dénoncer les soi-disant chrétiens dont on convoitait les biens. Donc, Trajan fera même appliquer aux dénonciateurs les peines encourues par les dénoncés. Donc, ce qui modérait aussi quand même le nombre des dénonciations fautives. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle se trouvent nos apologètes. Alors, la première apologie que je voulais vous, dont je voulais vous parler, c'est, alors c'est Grand B, les grands apologètes, Justin et Ad Diognetum ou Ad Diognet. Alors, la première, c'est l'apologie dite Ad Diognet, parce que c'est le nom du destinataire, on ne connaît pas l'auteur. Alors, c'est ça aussi, je peux vous donner le texte. Alors, vous le trouvez, bien sûr, dans le livre que je vous ai distribué l'autre fois. Donc, pas distribué, que je vous ai montré l'autre fois. Et j'ai même reçu M. Salamito aujourd'hui. Là. Merci. Alors, qui n'en a pas ? Là, c'est comment ? Il y en a plein qui restent là. Qui n'a pas son texte ? Non ? Bon. Tu as le sien ? Non. Le secrétaire, tu as le même nom pour chaque. Et puis alors... Ah non, ça c'est des... Cette apologie, c'est un texte qui a été retrouvé au XVe siècle où il servait d'emballage dans un marché aux poissons de Constantinople. Donc vous voyez, c'était le développement durable déjà à l'époque, hein, le réemploi des matériaux. Alors, je dis ça, mais c'était aussi en architecture, puisque en fait, les colonnes de temples resservaient dans d'autres temples, et puis elles continueront à resservir après. Donc voilà un texte qui a été retrouvé au XVe siècle, qui a été étudié, et qui a été perdu dans le bombardement de Strasbourg en 1870. Oui. C'est arrivé. Alors, on pense qu'il daterait, vous voyez ici, c'est marqué datant des environs de 160, les historiens disent en tout cas, deuxième moitié du deuxième siècle. Donc, relativement proche quand même des événements. Hein. Un siècle, mettons, un siècle des textes du Nouveau Testament. Et on pense qu'il aurait été composé à Alexandrie et donc adressé à un certain Diognète, probablement quelqu'un de cultivé. Alors l'introduction de ce texte pose trois questions sur lesquelles Diognète souhaite des éclaircissements. Vous avez ça dans le chapitre 1. À quel Dieu s'adresse la foi des chrétiens? Quel culte lui rendent-ils? D'où vient leur dédain unanime du monde et leur mépris de la mort? Etc.
Où sont les questions là?
C'est, je le vois, excellent Diognète, hein, le zèle qui te pousse à suivre, à construire l'argent des chrétiens. Voilà. Donc, le Dieu et son culte, leur comportement moral, disons, oui, voilà, ils sont essentiellement ça. Et pourquoi n'apparaissent-ils qu'à la fin des temps? Enfin, à ce moment-ci, et pas plus tôt. Donc, vous voyez, les trois questions principales. Donc, qui est le Dieu des chrétiens? Comment les chrétiens le vénèrent-ils? Pourquoi font-ils si peu de cas de la mort? Pourquoi refusent-ils les cultes des autres, les cultes juifs et grecs? La question de l'amour du prochain et la question donc pourquoi le christianisme n'est-il apparu que tardivement après plein d'autres religions? Alors, le chapitre 2, là, vous voyez, grand 2, va commencer par critiquer l'idolâtrie païenne, et puis les chapitres 3 et 4, le ritualisme juif. Ensuite, l'auteur va expliquer la véritable nature du christianisme en s'appuyant sur les textes de saint Jean et de saint Paul qu'il connaît. Et il va dire que les chrétiens sont des hommes comme les autres quant aux mœurs et usages de ce monde, mais ils se distinguent cependant des autres par le fait qu'ils sont comme l'âme dans le corps. Ça, on aura ça au chapitre 6. Il va dire ensuite au chapitre 7 que leur doctrine est révélée, alors que les païens, les philosophes païens se divisent au sujet de la question de Dieu, chapitre 8. Et la dernière question, il va dire que le retard du christianisme tient au dessein de Dieu. Il faut que l'homme soit convaincu de son péché, de son incapacité à se sauver par ses propres moyens, et donc à accueillir le Christ envoyé de Dieu pour le salut. C'est le chapitre 9. Et pour terminer, l'auteur invite Diognète à se convertir pour connaître la joie des chrétiens. Et selon les historiens, eh bien, les chapitres 11 et 12, qui sont une sorte de mandat missionnaire, serait un ajout sur de la lettre. Donc la lettre circule et on rajoute un commentaire, en quelque sorte. Donc voilà un petit peu la structure de cette lettre. Alors le plus simple, eh bien, c'est de... Alors je ne reprends pas la critique de la... Du polythéisme païen, parce que ça reprend un petit peu toutes les pontosanes là aussi de la critique juive, c'est-à-dire enfin toujours les mêmes idées, hein, à savoir qu'on a tendance à laisser croire que les païens vénèrent des idoles, des statues. C'est bien que la plupart, enfin les plus intelligents, savent bien que les statues, c'est pas véritablement c'est simplement qu'un symbole de la divinité. Mais c'était facile rhétoriquement de dire vous adorez du bois qui va pourrir, de la pierre qui va s'effriter, de l'or dont vous pouvez faire aussi des bijoux ou je ne sais quoi, et que tout ça est fabriqué par la main de l'homme. Donc Donc vous avez tout ce chapitre, c'est un chapitre assez traditionnel de critique du paganisme et de l'idolâtrie. Alors après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir pourquoi on critique le judaïsme, puisque finalement, les chrétiens proviennent du judaïsme. Alors c'est ce qu'il dit au début du chapitre 3. J'en viens à ce qui distingue le culte chrétien de celui des juifs. C'est, je crois, ce que tu désires surtout apprendre. Quand les Juifs s'abstiennent de l'idolâtrie dont je viens de parler, ils ont certes bien raison de croire en un Dieu unique et de le vénérer comme maître de l'univers. Mais quand, suivant l'exemple des païens dont je viens de parler, ils lui rendent le même genre de culte, ils sont dans l'erreur. Alors, le même genre de culte, c'est le culte du temple, avec les graisses qu'on fait fumer, le sang qu'on répand, et tout ça qui vient tacher les autels et tout ça. Alors, en faisant de telles offrandes à des idoles insensibles et sourdes, les Grecs manquent de bon sens. Les Juifs qui les présentent à Dieu en s'imaginant qu'il en a besoin devraient bien plutôt penser que c'est là extravagance et non piété. Vous savez, il y a des psaumes qui disent « si j'ai faim, irai-je te le dire ». Enfin, qui fait dire à Dieu « si j'ai faim, irai-je vous le dire ». Ben non. Et alors justement... Et voilà, vous avez la critique du culte du temple. Puis ensuite, critique du ritualisme dans la vie quotidienne. Quant à leurs craintes scrupuleuses concernant la nourriture, leur superstition au sujet du sabbat, l'orgueil qu'ils tirent de la circoncision, la fausse humilité de leurs jeûnes et des néoménies, enfin des nouvelles lunes, chose ridicule et indigne de mention, je suppose que tu n'as pas besoin que je t'en instruise. Évidemment, s'il est à Alexandrie, il y a le quart de la population, voire le tiers, qui sont des juifs. Alors, il peut voir ça très clairement. En effet, parmi les créatures que Dieu a faites pour l'usage des hommes, accueillir les unes comme réussies et rejeter les autres comme inutiles et superflues, comment cela peut-il être permis ? Hein, toute la législation sur le pur et l'impur. Accuser Dieu de défendre d'accomplir une bonne action, n'est-ce pas impie ? Tirer vanité d'une mutilation charnelle comme signe d'élection, comme si cela les faisait tout particulièrement aimer de Dieu, n'est-ce pas ridicule ? Quant à surveiller le cours des astres et de la lune pour régler l'observance des mois et des jours, quant à distribuer selon leurs propres désirs les plans divins et les vicissitudes des temps en jours de fête et jours de pénitence, est-ce faire preuve de piété ? N'est-ce pas bien plutôt de la sottise ? C'est bien donc avec raison que les chrétiens s'abstiennent de la légèreté de l'erreur générale, comme du ritualisme indiscret et de l'orgueil des juifs. Je suppose d'en avoir assez appris là-dessus, mais ce qu'est leur religion à eux, c'est un mystère. N'espère pas pouvoir jamais l'apprendre d'un homme. Alors, et là, donc, c'est ça, il va dire que le christianisme, tu ne peux pas l'apprendre d'un homme, parce que finalement, c'est une religion révélée. Pour la connaître, eh bien, il faut accepter soi-même de se convertir d'abord pour entrer dans l'instruction chrétienne et ensuite progressivement recevoir les choses. Et alors, on a ce très beau passage qui est donc chapitre 5. Car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Vous voyez, c'est l'idée que le christianisme n'est pas communautaire au sens où il y aurait, par exemple, comme à Alexandrie, à Rome, à cette époque, un quartier pour telle communauté, un quartier pour telle autre, etc., etc. Mais en fait, les chrétiens sont partout et ils ne se distinguent pas par leur apparence. Ce n'est pas à l'imagination ou aux rêveries d'esprit agité que leur doctrine doit sa découverte. Ça, c'est bien envoyé pour les philosophes. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, selon le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Et c'est là qu'on voit la différence. On a à la fois, ils sont répartis dans toutes les nations, toutes les cités temporelles, toutes les nations d'ici-bas, mais en même temps, ils ont aussi conscience de former une communauté, mais pas une communauté nationale, temporelle, ethnique, etc., mais une communauté spirituelle. Donc, c'est la définition de l'Église.